Nous sommes ici avec monsieur
Miguel Bonnefoy,
écrivain de langue française, mais d'origine
du Venezuela,
qui va nous parler un peu de son expérience aujourd'hui. Bonjour, merci pour être venu tout d'abord.
Merci beaucoup les amis.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter un peu votre parcours ?
Tout naturellement. Et moi, je suis né à Paris, en France, parce que mon père était un exilé chilien de la dictature de Augusto Pinochet et ma mère était une belle diplomate qui venait pour son premier destin à Paris en tant qu'attachée culturelle. Ils ont fait alors des enfants français et comme elle savait qu'elle allait se retrouver dans différentes villes, dans différentes capitales, dans différentes frontières et qu'on allait avoir toujours des différentes structures éducatives ici ou là, alors ils ont décidé de choisir un seul système éducatif pour ne pas bousculer l'éducation au milieu du chemin. Ils ont choisi le système français. Et c'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé au Colegio Francia de Caracas, que je me suis retrouvé également au lycée Charles Lepierre de Lisbonne. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'en allant dans les différents lycées français à l'étranger, que ce soit d'un côté d'Amérique latine, que ce soit du côté de l'Europe, que ce soit du côté de l'Afrique, que ce soit ici ou là, il y a toujours les mêmes édifices, les mêmes visages, les mêmes masques. On retrouve toujours les mêmes types de gens ici ou là. Il y a quelque part comme si les lycées français étaient calqués l'un sur l'autre, mais cependant on trouvait petites différences qui sont culturelles, qui sont locales. Donc je trouvais ça assez beau de me rendre compte à quel point on peut retrouver les mêmes royaumes partout alors que la couleur du tissu est différente.
Vous avez parlé de certaines différences. Donc est-ce que vous pouvez nous évoquer certaines spécificités justement du système éducatif français en ce qui concerne les matières, la façon dont on apprend ?
On utilise, il me semble, plus ou moins le même cursus, le même corpus de texte, on utilise plus ou moins le même squelette et pédagogique pour pouvoir être dans les lycées français ici et là. Mais par exemple, on trouve certaines choses qui sont assez curieuses. Au Venezuela, l'enceinte du lycée français est divisée en deux. Il y a d'un côté la section française et d'un côté la section vénézuélienne. Je ne sais pas si c'est la même chose à Athènes.
Exactement la même chose.
Les deux édifices sont exactement les mêmes et se font face l'un de l'autre, c'est-à-dire que d'une fenêtre, on peut voir la fenêtre de l'autre. Au milieu, il y a naturellement un terrain de football qui permet alors d'être à la fois le creuset où viennent se fondre ici et là, tantôt des histoires d'amour, tantôt des matchs de football, tantôt des idéologies politiques, tantôt simplement des croisements par rapport aux cours et par rapport aux professeurs. Moi, j'ai rencontré la première femme que j'ai aimée, qui était de la section vénézuélienne. Moi, j'étais dans la section française. On s'est retrouvés dans les récrés. Les plus grands matchs de foot que j'ai pu combattre, que j'ai pu battre, c'est contre les autres, ont été en effet dans ce petit match de foot dans lequel c'est la section française contre la section vénézuélienne qui, l'un devant l'autre, avait presque comme un acte de résistance et un acte national. Quand tu mettais un but, ce n'était pas juste mettre un but pour le match, c'était mettre un but pour ton pays, quelque part, ou pour ta section. Donc on pouvait voir qu'il y avait certaines choses qui se ressemblaient, comme par exemple les cours, comme par exemple l'assiduité, comme par exemple la discipline, mais il y avait certaines choses qui étaient différentes, comme par exemple beaucoup plus de flexibilité sur les autres. Je vous donne un exemple. Au Venezuela, il y a des uniformes qu'il faut pouvoir porter. On doit porter alors des uniformes qui ont des boutons. Quand on est en primaire, l'uniforme est blanc. Quand on est de la sixième jusqu'à la seconde, l'uniforme est bleu. Et quand on a de seconde jusqu'à terminale, l'uniforme est beige. Tout le monde doit le porter. Cependant, moi j'observais que la section vénézuélienne, elle, souvent ne le portait pas, il n'y avait aucun problème, il y avait une flexibilité à ce moment-là. Enfin, on pouvait voir à quel point même à un niveau d'uniforme qui devait nous rassembler, créer aussitôt entre nous des petits contrastes, des petites asymétries, des petites différences et des contradictions qu'on pouvait revoir également dans le terrain de foot.
Donc, vous avez parlé de l'expérience justement du terrain de foot dans les lycées français. Voilà, donc un autre écrivain, un très grand écrivain, Albert Camus, avait dit que tout ce qu'il a appris de la vie, c'était justement dans un terrain de foot et de la responsabilité qu'il avait justement appris. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui revient dans l'enseignement français, le contact entre le sport, le corps et l'esprit. Peut-être un peu plus dans l'enseignement à l'étranger, justement.
C'est très beau ce que tu dis. Il me semble en effet que la phrase d'Albert Camus était les terrains de football et les scènes de théâtre seront toujours et ont toujours été mes plus grandes universités. Et je trouve ça en effet particulièrement beau parce qu'il montre à quel point eh bien, il y a une hiérarchie qui est horizontale entre l'art, les lettres, les mathématiques, l'éducation et le sport, le corps, la méthode, la discipline, l'effort physique. Il y a là comme une hiérarchie horizontale, ce n'est pas pyramidal. Il y a quelque chose comme une vaste plaine qui se trouve entre les deux. Moi, je ne suis pas un grand sportif, alors je ne ferai pas des discours par rapport au sport, parce que voilà, je ne pourrais pas en parler suffisamment bien. Cependant, oui, je crois qu'il y a deux écoles. L'école qu'on a à l'intérieur de l'enceinte, intramuros, entre les murs, dans lequel on a les professeurs, dans lequel on vous apprend alors quelle est l'histoire de Louis XIV, on vous apprend quel est le triangle isocèle, on vous apprend ici et là à parler en anglais ou dans des langues secondaires. Et puis il y a également une autre école qui se passe derrière les murs, qui est l'école de la bagarre, qui est l'école de l'amour, qui est l'école eh bien, de la danse, de la fête, de l'alcool, qui est une autre école, qui est également l'école du tourisme dans le pays dans lequel on se trouve. Moi, j'ai souvent été dans des endroits dans lesquels je n'avais absolument aucun sentiment d'appartenance. Et cependant, aujourd'hui, toutefois, eh bien, j'en conserve un souvenir ébloui. Je sais qu'ils sont là. Le Portugal, je ne suis pas revenu il y a 10 ans. Je sais que demain, en y revenant, eh bien, ce sera pour moi comme si je ne l'avais jamais quitté. Donc il y a cette idée, en effet, qu'il y a deux écoles qui se fondent dans les lycées français. Tantôt, l'école intramuros, tantôt l'école extramuros. Et je pense que toutes les deux viennent se fondre dans le même creuset comme vient la pulpe entourer un noyau.
Et donc justement, en parlant de ce terrain de foot, il me semble que c'est bien une sorte de terrain de bataille entre les deux cultures, en quelque sorte. Il doit y avoir une compétitivité, une sorte de lutte qui se mène. Est-ce que cela est, selon vous, positif? Est-ce que ça, justement, ça vous apporte des éléments positifs?
Il me semble que c'est profondément positif. Moi, je l'ai observé, non seulement parce que j'ai créé des liens d'amitié très profonds avec les personnes contre qui j'avais pu être dans les terrains de foot, mais également parce que c'est dans les moments de sport, c'est dans les moments d'amour, par exemple, c'est dans les moments comme ça, de grande violence ou de grand désespoir, qu'on arrive à tisser des liens très profonds qu'une vieille amitié n'aurait pu le faire. Donc il me semble parfois que tu peux retrouver, eh bien, dans les lycées français, tisser des amitiés que tu n'aurais pas ailleurs, et c'est là où je pense qu'il faut mettre l'accent. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir été grande amie d'une fille qui était la fille du président de Total. Eh bien, aujourd'hui, moi, je serais absolument incapable de tisser des liens avec quelqu'un qui est dans la hiérarchie sociale beaucoup plus élevée que moi. Mais j'avais également été un grand ami du fils de la dame qui s'occupe de nettoyer les toilettes. C'est ça, ouais. Donc, on pouvait voir qu'à l'intérieur de cette enceinte pouvaient justement venir se rassembler comme dans une grande cour des miracles différentes catégories sociales, différentes classes, différentes couleurs, différents sexes, différents points de vue, différents combats politiques qui pouvaient se retrouver dans le même moment. Voilà, je pense, la force des lycées français à l'étranger et sa diversité.
On peut facilement remarquer que vous parlez, c'est une question un peu plus personnelle, mais vous parlez avec un langage plutôt poétique, on pourrait dire. Comment avez-vous développé cette sorte de langage justement très expressif et très littéraire à la fois?
Ma langue maternelle est l'espagnol. Et peut-être parmi vous, eh bien, la langue maternelle est le grec. Il se trouve que peut-être, comme j'ai eu un peu de mal à apprendre le français, eh bien, je respecte autant cette langue. Et puis moi, je suis fasciné par la littérature française. J'ai toujours été fasciné par elle. Alors quelque part, j'ai observé que la modernité de la langue, quand on le voit dans la littérature, n'est pas celle de dire merde, celle de dire putain, n'est pas celle d'utiliser une oralité au moment de l'écriture. Peut-être la modernité de la langue est d'aller chercher dans les mots d'hier, dans les poubelles de l'histoire, aller chercher des mots qui ont été oubliés et les restaurer, les rénover et leur donner une place dans leur siècle qui devrait leur revenir. oui, il me semble important de sauvegarder la langue comme on sort du tombeau un vieux cadavre et alors on le remaquille pour lui donner une deuxième vie. Il me semble que si tu parles de ce langage poétique, ce n'est pas un langage qui est anachronique, ce n'est pas un langage qui est archaïque, ce n'est pas un langage d'hier, c'est un langage qui peut être celui de demain, si on arrive à lui trouver alors la lumière violente de son siècle. Voilà ce que je pense au niveau de la langue. Après, naturellement, eh bien moi je ne suis personne pour faire des discours sur la linguistique, sur la sémantique, personne pour dire quelles sont les toponymies du monde. Cependant, oui, je crois en effet que les mots de demain peuvent être les mots d'hier, de la même manière que les révolutions d'hier peuvent être les révolutions de demain.
Donc, merci beaucoup.
Une dernière question, juste pour revenir au système éducatif français un peu. Est-ce que vous pensez que ce système, justement, aide à sauvegarder ce langage dont vous parlez? Est-ce que ça, en quelque sorte, le conserve ou pas?
Je pense qu'il le conserve, clairement. Je pense qu'il y a un travail que font les professeurs ici et là, et il faut le rendre hommage à tous ces génies de l'ombre, à tout ce peuple sombre qui est ailleurs. Je pense en effet qu'il conserve parfaitement ce travail sur la langue, cette délicatesse sur la langue. Après, s'il faut critiquer quelque chose, mais ce n'est pas nécessaire, moi je vais cependant le faire parce qu'il me semble important, les lycées français à l'étranger sont particulièrement chers. Et moi je connais souvent, ici et là, beaucoup de personnes qui étaient brillants, qui avaient une intelligence développée, qui avaient une méthode de travail, qui auraient pu être des immenses élèves, et qui toutefois n'ont pas pu être dans les lycées français à l'étranger, tout simplement parce qu'ils n'en avaient pas l'argent. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, le système de l'éducation à l'étranger est fondamental. Ils font parfaitement leur travail, et ils sauvegardent la langue, comme on parlait depuis tout à l'heure, et ils sauvegardent également les valeurs primordiales. Mais je pense qu'il faut qu'ils fassent un effort au niveau de leur économie de marché, au niveau de leur table financière, pour voir s'ils arrivent à donner aux lycées français justement que ce ne soit pas le privilège et le monopole de certaines classes parfumées, de certaines oligarchies, de certaines bourgeoisies assises, et qu'on puisse l'ouvrir alors à d'autres personnes qui ont suffisamment de force et d'intelligence pour pouvoir en participer.
D'accord, donc merci beaucoup pour votre intervention.
Merci à vous.